Alors bonsoir, je vais reprendre très rapidement le programme de l'année pour nous resituer le texte que nous allons lire ensemble ce soir, qui nous ramène à Paul. Paul, dont je rappelle que l'an dernier, les principales épîtres et les principaux textes nous avaient réunis et nous avaient donné l'occasion de nous rencontrer entre catholiques et protestants. Paul, qui est à l'origine donc de ces retrouvailles, j'ai envie de dire, et qui ce soir nous permettra de poursuivre dans le thème « Guerre et paix dans la Bible », un thème qui lui est très cher, dans la mesure où c'est un homme qui a connu la captivité, qui a connu le combat, combat intérieur, naturellement, et combat aussi extérieur, puisque vous savez qu'il a été rejeté par son clan, j'ai envie de dire, au départ, et puis par un certain nombre des premiers chrétiens, et qu'il a dû combattre toute sa vie pour ce à quoi il pensait. Et donc avec la lettre aux Éphésiens, nous arrivons un petit peu dans ces périodes de testament de Paul. Éphésiens et Colossiens, qui sont deux lettres assez jumelles, assez semblables, ont été rédigées à la fin, c'est-à-dire que ce sont des écrits de captivité. Alors on a pensé un temps qu'il était possible que cette captivité soit celle d'Éphèse vers 54, mais en fait, on n'a trouvé plus vraisemblable une rédaction durant la dernière captivité de Paul, celle qui va la conduire à sa mort, celle de Rome, dans les années 60-62. Alors les chercheurs, les historiens continuent de travailler. Et voilà que cette lettre aux Éphésiens n'est pas reconnue actuellement comme authentique de Paul. Alors ne prenez pas l'air attristé, elle est parfaitement paulinienne, mais pour le vocabulaire, disons, des spécialistes, elle est deutéro-paulinienne, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des premiers écrits de Paul, mais de la deuxième série. Donc pas forcément authentiquement de Paul, mais directement de disciples de Paul. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on se rend compte à la lecture de la lettre aux Colossiens et plus encore à celle d'Éphésiens que il y a un développement doctrinal, un développement comme un complément à toute la base de Paul qui se trouve être en quelque sorte dans le christianisme naissant. Puisqu'on voit apparaître des termes qui n'apparaissaient pas dans les grandes épîtres qu'on avait vues l'an dernier. On voit apparaître toute la structure de l'Église, on voit apparaître les ministères, on voit apparaître surtout tout ce que l'on appelle l'eschatologie paulinienne. Et donc un certain nombre de thèmes, non pas nouveaux, mais qui sont des développements doctrinaux. On va voir ce soir donc tout ce qui s'agit du combat spirituel. Alors pourquoi cette lettre dans Guerre et Paix? Eh bien tout simplement, on avait commencé au tout début par la Genèse, avec la voix du sang du frère qui crie du sol jusqu'à moi, avec l'origine en quelque sorte de ce mal qui semble déchirer les frères. Puis nous avions vu avec Matthieu dans les Béatitudes à quel point précisément dans ce combat il fallait choisir la paix. Il fallait choisir d'aimer les ennemis. Ensuite, nous étions partis du côté des prophètes, avec Isaïe d'une part, loup et agneau vivront ensemble, avec Jérémie d'autre part, je vois la branche de l'amandier, comment tous ces prophètes, à des temps terribles de l'histoire d'Israël, au temps de l'exil, au temps de la défaite, au temps des guerres cruelles, comment la paix était à l'horizon. Enfin, l'Apocalypse, dernier des livres bibliques, nous faisait à la fois voir des temps de guerre, je dirais ultime, et voir cet horizon définitif de la paix de Dieu. Alors, ce soir, nous revenons en quelque sorte à la vie actuelle, grâce à Paul, puisque nous allons lire et entendre le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, qui précisément en deux parties, nous allons nous attacher plus particulièrement à la deuxième partie qui concerne le combat spirituel, ce chapitre nous situe en quelque sorte le chrétien dans la société, D'abord, dans un rapport domestique, homme-femme, enfant-parent, serviteur-maître. Il y a toute une doctrine, en quelque sorte, sociale. Vous savez que le stoïcisme avait beaucoup développé la morale et qu'au 1er siècle, on débattait notamment autour des phénomènes de la société que sont le mariage, les familles, l'oikia, la famille, la maison, la domesticité, et bien entendu, et ça nous paraît assez terrible, l'esclavage, qui est à la base de la société. Donc, il ne faut pas attendre de Paul qu'il soit un révolutionnaire du XXe siècle. Il est de son siècle. Il épouse son siècle et il fait correspondre à la société idéale de type gréco-romain ou même à la société juive un certain nombre de concepts que l'on peut qualifier de chrétiens. C'est le tout début de cette lettre que nous allons entendre qui, en quelque sorte, rétablit l'harmonie d'une manière assez nouvelle pour l'homme nouveau dans la société telle qu'elle est. Voilà comment il faut l'entendre. Et puis, à partir du verset 10 et jusqu'à la fin, qui s'adresse à chacun d'entre nous, dont un véritable combat spirituel à livrer contre une force qu'il va nous falloir définir, que l'on appelle un peu rapidement les forces du mal ou... les ruses du diable, hein, il est même question. Et alors, ça va être pour nous l'occasion de nous pencher sur cette question qui nous taraude au fond. Qu'est-ce que le diable? Qu'est-ce que les ruses du mal? D'où sortent-elles? S'agit-il d'une personne de... Voilà, tout ceci grâce à Paul.
Mais alors, c'est vrai que là, déjà, bon, d'abord bonsoir à chacun d'entre vous, puis bonsoir Hervé, merci de venir dans cette maison. Tu dis déjà combat spirituel, c'est déjà en fait finalement une option, une clé de lecture, parce que moi je crois qu'il y a une part de combat spirituel, mais que c'est aussi un combat en ce monde. Et alors c'est vrai que ça a été longtemps débattu, parce que autour par exemple des fameuses phrases dans la parabole de Jésus du festin, contrains-les d'entrer, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas participer à la noce, on va les chercher, on les force à rentrer. Donc l'idée d'une contrainte par la violence pour gagner des âmes, finalement. C'est quelque chose qui a été très, 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 très longtemps débattu, jusqu'à récemment. Et par conséquent, on peut, oui, effectivement, trouver des auteurs jusqu'à récemment qui disent qu'il n'est question ici, on va le voir, ce ne sont que des armes spirituelles, finalement. Des auteurs pour dire, mais en fait, ici, il n'est question que d'un combat spirituel, d'un combat interne à l'homme, finalement, contre les puissances du mal. Moi, je ne crois pas. Je crois que ça se décline à différents niveaux, à deux niveaux. Et ça, on le retrouve souvent, à mon avis, c'est une clé de lecture quand même importante dans l'Évangile et particulièrement dans les lettres de Paul. L'être nouveau, finalement, l'être humain, c'est à la fois chacun de nous, avec ses combats spirituels, avec sa foi, avec sa relation personnelle avec Dieu. Mais c'est aussi... Oui, bonsoir, madame. C'est aussi l'être nouveau, tel que Dieu le rêve, c'est aussi l'humanité qui serait réconciliée ensemble, réconciliée avec Dieu, l'humanité dont le Christ serait la tête. Et donc ce combat spirituel, ce n'est pas qu'un combat à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre tête. C'est un combat dans ce monde. Mais c'est un combat dans ce monde où les armes ne sont plus l'Inquisition. Hier soir, je regardais à la télévision Le Nom de la Rose, encore avec Bernardo Gouy, vous savez, c'est... Mais ce n'était pas pour rire, si vous voulez. Il faut demander au Qatar ce qu'ils en pensent. Mais cela dit, c'était discuté. Mais je rigole parce que j'ai vu Bernardo Gouy hier à la télévision, mais les protestants dans la Genève de Calvin, ça rigolait pas non plus. Hein, et on est finalement content qu'il y ait une statue de Servais, vous savez, face à la mairie du 13e, 14e, je ne sais pas. Enfin, c'est par là-bas, je crois. Voilà. Michel Servais a été brûlé par Calvin, mais Calvin a laissé brûler parce que il n'était pas d'accord avec la Trinité. Bon, aujourd'hui, la Trinité est très discutée aussi. Si vous voulez, c'est inventé au 2e, 3e siècle, il n'y a pas de quoi brûler quelqu'un, mais enfin bon. Donc vous voyez, à l'époque, c'était très discuté de savoir si ce n'était qu'un combat spirituel dont il est question ici, un combat interne à notre âme, voilà, ou si c'est aussi la façon d'être de Dieu lui-même dans le monde pour combattre ses ennemis, si je puis dire, combattre le mal. Et c'est une façon qui nous est proposée aussi pour faire une éthique dans la vie en ce monde. Et moi, il me semble que c'est les deux, quoi, voilà, parce que c'est les deux. Alors c'est peut-être, je ne crois pas que ce soit qu'une lecture moderne, quand même. Parce que Jésus, quand il nous dit « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent », c'était pas que des combats, c'était que pas dans notre tête, nos ennemis intérieurs, notre détresse, nos angoisses, c'était aussi une éthique qui est proposée. Donc je crois que oui, c'est intéressant de lire le chapitre 6, bon, pas seulement comme je l'ai fait bêtement sur cette petite feuille en commençant au verset 10, mais avec les petits conseils de vie pratico-pratique, de comment on se débrouille avec des enfants qui sont turbulents, comment est-ce que quand on est enfant, on arrive à supporter les parents qui nous cassent les pieds, des questions, je veux dire, tout à fait dans le concret, et parce que les ennemis, finalement, hein, l'enfer, c'est les autres aussi, hein, comme diraient les philosophes.
La famille Sartre.
Et donc, je crois que oui, ces combats, ben, c'est aussi dans la famille, c'est aussi dans l'entreprise, c'est aussi dans la ville, que se mènent ces combats. Alors, est-ce qu'on passe la parole à notre lectrice professionnelle, qu'on remercie beaucoup parce qu'elle est d'une grande fidélité.
Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, comme c'est juste. Honore ton père et ta mère. Premier commandement avec la promesse de connaître du bonheur et de rester longtemps sur la terre. Vous, les pères, ne mettez pas en colère vos enfants, mais nourrissez-les d'éducation et d'instruction du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, avec un cœur simple comme au Christ, non en service surveillé pour plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ qui font la volonté de Dieu dans l'intimité de leur être. Esclaves de bon gré pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que chacun, s'il a fait quelque chose de bon, recevra de même du Seigneur, esclave ou homme libre. Et vous, maîtres, faites de même à leur égard, ne menacez plus, sachant que leur Seigneur est le vôtre est aux cieux, et que lui ne considère pas le visage. Pour le reste, galvanisez-vous dans le Seigneur et dans sa force vigoureuse. Revêtez l'armature de Dieu pour tenir face à l'acharnement méthodique du diviseur. Non, nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les maîtres du monde de la nuit, contre les forces du souffle maléfique du ciel. Aussi, prenez sur vous l'armure de Dieu pour pouvoir faire face aux jours mauvais et tenir debout en ayant tout fait. Tenez debout, oui, avec pour ceinture la vérité, pour cuirasse la justice et aux pieds la hâte de l'annonce de paix. Et surtout, la confiance pour bouclier, afin d'éteindre toutes les flèches enflammées du mal, et pour casque le salut, avec l'épée du souffle qu'est la parole de Dieu, par la prière et la demande. Priez par le souffle à toute occasion, et pour ça, veillez fermement avec persévérance et prière pour tous les saints, et pour moi. Que l'engage me soit donné en ouvrant la bouche pour parler ouvertement du mystère de l'annonce dont je suis l'ambassadeur enchaîné, pour que j'y trouve assurance pour parler librement comme il me faut en parler. Vous voulez de mes nouvelles, savoir ce que je fais. Tichique vous apprendra tout ça, ce frère bien-aimé et serviteur fidèle dans le Seigneur, que j'ai envoyé près de vous précisément pour que vous sachiez ce qui nous concerne et pour qu'il conforte vos cœurs. Paix aux frères et amour confiant de la part de Dieu Père et du Seigneur Jésus-Christ. La faveur avec tous ceux qui aiment de façon incorruptible notre Seigneur Jésus-Christ.
Eh bien, un grand merci pour cette lecture. Alors, est-ce que tu veux parler d'abord de ces premiers versets sur la vie domestique, si je puis dire? Est-ce que tu as des choses qui sont...
Non, je crois que effectivement, en entendant ce chapitre, on voit bien qu'il y a... Je justifie totalement le fait que tu aies commencé au verset 11, qui précisément ressort parfaitement de notre sujet. En revanche, en réalité, le début de ce chapitre, et ça te donne une petite leçon, est la fin du chapitre précédent, c'est-à-dire tout le code domestique. Vous avez dans le chapitre précédent le rapport entre le mari et la femme. Et il y a, de la part de l'auteur, toute une comparaison entre Christ et l'Église et le mari et sa femme. Il y a donc un certain nombre, voilà, qui nous aide aussi à lire un certain nombre de versets qui peuvent nous paraître extrêmement contestables dans l'obéissance, dans la soumission, c'est parfois le mot employé, dans le servage, dans l'esclavage. En réalité, si on regarde de beaucoup plus près, on se rend compte qu'il y a toute une harmonie, il y a tout un équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soumission de maître et d'esclave au sens opium du peuple ou asservissement. Il y a plutôt un équilibre social dans une situation donnée, qui est la société gréco-romaine, encore une fois, qui est en train de gagner... tout le monde romain, naturellement, et le monde juif, par invasion, d'une certaine façon. Et, encore une fois, l'auteur se place là dans la vision des stoïciens, la vision des philosophes, et il essaye de créer une harmonie, il essaye de donner un lien. Et ce lien, cette harmonie, contrairement aux philosophes, il la donne en Dieu, en Christ. Et au fond, d'une certaine façon, ces éléments de cette vie sociale, de cette vie domestique, se retrouveront parachevés par les paroles du Christ lui-même chez Saint Jean, par exemple. Lorsque, dans des textes qui sont sans doute postérieurs, lorsque Christ vient donner l'exemple du serviteur, en réalité, il s'agit du même mot, hein. Il dit bien « soyez esclave ». Alors, c'est un vocabulaire qui, bien sûr, il y a quelques siècles, on aurait tous voulu être esclave de la foi. On aurait voulu faire des vœux de servitude et autre chose qui, aujourd'hui, paraissent bien désuètes. Mais, voilà, toute chose égale par ailleurs, il y a là tout un système, le système humain, qui est parachevé, qui est... placé sous l'autorité de Christ. Et c'est d'ailleurs, ces épîtres nous apportent beaucoup dans ce domaine-là. Christ tête, dont nous sommes le corps, l'Église corps du Christ, dont le Christ est le chef. Et dans tout ce système, c'est au fond à partir de la maison, à partir de la domesticité, que s'établit toute la société. Comme Jésus établissait son enseignement à partir de la maison où l'on prenait le repas et où l'on se rassemblait autour de lui. Donc, quelques versets qu'il faut, en tout cas ce soir, lire assez vite en les lisant d'une manière la plus poétique d'une certaine façon. Il y a finalement beaucoup de liberté, il y a finalement beaucoup de respect dans ces paroles, car si on regarde, il y a un véritable équilibre, il y a vraiment une harmonie, hein, entre les parents, les enfants, notamment les commandements premiers, hein, et la promesse qui est faite, et au fond toute une société qui est placée sous un certain ordre, avec finalement le Seigneur comme seul véritable maître. Mais il ne faut pas oublier le système domestique du pater familias, avec son épouse, ses enfants, sa domesticité, ses esclaves, sa clientèle, etc. Donc tout est organisé d'une certaine façon.
Alors, moi je serais peut-être moins indulgent en fait, parce que je trouve que Paul a quand même bien du mal à sortir de ses préjugés, de sa culture, et donc ces commandements finalement pour la vie domestique, ces commandements moraux que l'on voit souvent chez Paul, ils sont quand même très très difficiles à appliquer pour notre vie quotidienne, et on dit qu'en fait il s'est un peu trompé, quoi. Il s'est même planté, c'est-à-dire que bon, quand il justifie l'esclavage en disant... Ben c'est normal, le Christ est le chef, donc vous n'avez qu'à obéir à vos maîtres comme si c'était le Christ. Je veux dire, ça y va quand même fort. Et donc, si on voulait être fondamentaliste, en disant c'est la parole de Dieu, mais nous ne croyons pas que c'est la parole de Dieu, c'est des témoignages sur des témoignages de foi, des témoignages sur Dieu, sur une relation à Dieu. Mais ces hommes, Paul, il est dans son contexte, dans sa culture, et donc quand il justifie l'esclavage, parce qu'il ne voit pas trop de problèmes. Et donc, c'est pas pour autant, si on faisait une lecture fondamentaliste en disant, bah, Dieu a soufflé ça, a dicté ça à Paul, et donc il faut le faire, rétablissons l'esclavage, je veux dire, soyons... Alors, évidemment, il n'en est pas question. Évidemment, il n'en est pas question, et donc, en général, on fait la distinction entre l'auteur et puis la parole de Dieu, voilà. Et donc, on dit, bah oui, Paul, comme nous tous, on est dans notre culture, dans notre contexte, et puis, fort de notre foi, de ce qui vient de Dieu, on essaye quand même d'avancer. Et je crois que là, on peut remarquer des avancées formidables. Il justifie l'esclavage. Il justifie, l'esclavage de la femme dans le couple et dans la famille, en fait. C'est tout à fait désolant. Et dans notre contexte, c'est inaudible. Mais on le sent quand même infléchir, cela. Quand il dit juste après, « Oui, mais attention, maître. » Vous avez le même Dieu, et devant Dieu, l'esclave et le maître, c'est au même niveau, quoi. Eh bien, c'est incroyable, quand même, ça, dans ce contexte. Dans le milieu grec, l'esclave n'avait pas le droit de vote. Je veux dire, on parle de démocratie, il ne faut pas rigoler. C'est la démocratie pour les happy few qui font partie de ceux qui ont le droit de vote, en fait. Donc, je crois que ça nous rappelle aussi face à nos propres limitations. Je veux dire, le droit de vote, parlons-en, le droit de vote des femmes, si vous voulez. Aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique pour dire « Tiens, et si on enlevait le droit de vote aux femmes ?» Puisqu'on vote la semaine prochaine, il paraît, non ? Enfin, je ne sais pas. Mais en fait, si vous voulez, il y a 100 ans, la question se posait à peine. Et il y avait plein de gens, je veux dire, pas des débiles mentaux, des gens, j'allais dire, normaux, comme nous, qui disaient « Non, pourquoi ? Il y a un vote par famille. Bon, ben, il y a des gens qui se mettent d'accord avant que l'homme aille voter. » Voilà. Mais si vous voulez, aujourd'hui c'est indéfendable. Mais c'est-à-dire qu'on a nos œillères, on a nos contraintes, mais on peut quand même essayer de s'évangéliser. Notre pratique, nos vies, voilà. Et c'est pareil sur l'obéissance de la femme. Il dit oui, mais attention, Marie. Il faut quand même aimer vos femmes comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Donc ça change quand même un peu, ça infléchit quand même pas qu'un peu la réalité dans laquelle il est et qu'il ne remet pas en cause. Alors cela dit, quand je lis quand même ce Nouveau Testament ou la Bible, je trouve que Jésus-Christ, c'est assez fort. Non mais franchement, je veux dire, c'est pas parce que je suis fan, si vous voulez, c'est pas parce que j'ai un parti pris, mais quand on le lit, on se dit quand même, c'est d'un modernisme incroyable. Là dans Paul, bon c'est vrai qu'il y a des tas de passages, on dit bon ben ça, oh là là, mais c'était l'époque. Dans le Lévitique, on dit, voilà, faut tuer un mouton comme ça, faut machin, dit, oh là là là, faut que le prêtre porte des pierres, des trucs. Bon, ça a vieilli, on s'en fiche. Par contre, dans les évangiles, dans ce que dit Jésus, c'est d'une hauteur. C'est pratiquement, ça nous dit quelque chose directement. Il n'y a pas grand-chose à enlever quand même. Voilà. Donc ça, franchement, on ne regrette pas d'être chrétien, si je puis dire. Et pas de ne pas être paulinien, c'est ça. Hein, je veux dire, il y a une nuance entre les deux. Alors, à mon avis, je préfère le Paul quand... je préfère regarder ce qu'il ajoute comme inflexion à la réalité ambiante. C'est souvent quand même pas mal. C'est souvent pas mal, oui, par contre. Donc, il n'y a pas tout à jeter dans ces commandements un peu désuets et vieillis. Il y a du très très bon. Des très très bons aussi, mais c'est vrai que les passages comme dans la suite que nous allons étudier en plus en détail à partir du verset 10, donc de ce chapitre 10 de la lettre aux Éphésiens, là on a quand même quelque chose à mon avis qui est beaucoup plus utilisable directement pour notre existence propre, C'est de la théologie, c'est aussi de l'expérience spirituelle, et c'est une éthique qui nous est proposée, je crois, pour vivre en ce monde. D'ailleurs, je crois qu'il fait la jonction avec le « au reste ». Au reste, c'est dire, bon, alors j'ai parlé de plein de choses pratiques, parce que c'est vrai que, bon, il faut quand même vivre en ce monde et réfléchir comment on vit, essayer de mettre en cohérence notre théologie, notre foi, et puis bah, ce qu'on vit. Même si on est plein de préjugés, de hier, etc., il faut quand même essayer, on peut essayer d'infléchir. Mais maintenant, avec le au reste, il dit, bon, bah, écoutez, maintenant, je vais quand même résumer des principes de base, quelque chose qui est de l'ordre peut-être d'une méthode, quelque chose qui permet d'avancer, qui permet de se construire, quelque chose qui est d'un autre ordre, quoi, finalement. Hein. Voilà, si on enlevait tout, ben, il resterait ça, quoi, finalement, non. Je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'on peut dire de ce au reste, déjà. Au reste, comme dans Molière.
Oui, ce qui est intéressant, là aussi, c'est... Alors, je vais... Comme là, on lui a donné une petite claque à Paul, on va un peu le refaire, le rehausser. En même temps, c'est bien un homme de son temps. Et j'allais dire, tant mieux. Il n'est pas Superman. Et il peut pas se transporter ailleurs. Mais justement, il y a aussi, en même temps, cette capacité de traduire une situation présente qui est la sienne. Un homme en captivité, un homme en proie à des condamnations, recherché, rejeté, qui a aussi des disciples. Et voilà que cet homme, en quelque sorte, de son exemple, et là aussi, on peut aussi le trouver absolument étonnant. Encore ce dimanche, on a entendu « imitez-moi ». Imitez-moi. Eh bien, il y a la compréhension que sa propre vie dépasse son moment, sa personne. Et il y a en quelque sorte une transposition de sa situation personnelle et de sa vie à la nôtre. Et qui, pour le coup, autant on l'a vu dans cette première partie, on a des difficultés à transposer et à nous projeter, autant dans cette partie-là, qui est une partie de combat, qui est une partie forte, on arrive tout à fait à transposer, même s'il faut adapter un petit peu le vocabulaire, parce qu'il y a un style littéraire, c'est évident, et là, il va prendre presque comme une allégorie militaire. Mais ça marche, parce que, eh bien, on comprend ce qu'il veut dire. Alors, évidemment, on peut ne pas être très militaire et ne pas aimer les batailles et trouver que les casques, les épées, les chaînes, le bouclier, la ceinture, etc. Mais si on veut bien accepter d'entrer dans cette panoplie, dans ce travail, là, c'est très puissant. Et il y a même une certaine beauté. Je ne fais pas du tout l'apologie de l'uniforme militaire, etc. Mais il y a une certaine noblesse, malgré tout, dans cet ensemble. Hein. C'est sans compromission, et en même temps, il y va de notre vie. C'est-à-dire que là, on comprend qu'il s'agit des choses essentielles. Là, ce n'est plus simplement l'organisation de la maison, etc. Là, c'est vraiment le sens de notre vie, le combat de notre vie. Et là, Paul est très bon parce qu'il a mené, s'il y a bien quelqu'un qui a mené un combat pour la vie, à la suite du Christ et dans la position dans laquelle il était, dans les faiblesses qu'il avait, dans son statut d'ennemi qu'il avait au départ, il a connu les deux camps, si j'ose dire, il est très bien placé. Et là, il est absolument merveilleux et il peut s'en prendre, j'allais dire, à la terre entière ou à toutes les puissances maléfiques. Il est dans une foi et dans une croyance qui lui font vraiment comprendre l'essentiel. Alors, si on accepte de rentrer dans son jeu, il y a un souffle, il y a un dynamisme au sens réel du terme. Alors, je crois qu'on peut essayer de décortiquer un petit peu tout cela.
Oui, vous avez... Madame, vous avez besoin de... Vous avez besoin d'un peu d'aide?
Je suis en train de oui. Perturber.
Non, pas du tout.
Je cherchais Saint-François
Sade. C'était hier soir, je suis désolé. Ce soir, c'est Paul. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est le Saint François de Sales, c'est quand même intéressant parce que vraiment c'est la douceur, c'est vraiment touchant. Bah écoutez, on l'a mis sur le site internet. Je ne sais pas si vous êtes branché site internet. On a mis l'enregistrement de la conférence de Richard Cadou.
Qui est mon confrère.
Qui est oratorien. Voilà, quel confrère vous avez. Ah bon, bon bah écoutez, je suis désolé. Sinon, ça, c'est sur l'apôtre Paul. La lettre aux Éphésiens. Ah, c'est vrai que j'ai parlé lundi à la radio sur Abraham, je crois. Donc, oui, donc en fait, je crois que ce combat, c'est pas seulement une parabole, si vous voulez. Il y a quand même un combat dans la vie en ce monde, c'est vrai. Et donc, c'est pas inintéressant quand même de présenter ça comme la vie comme un combat. En même temps, dès le début, hein, il y a au reste... je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a marqué comme traduction. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui. C'est ce qui est marqué dans mon texte. En fait, je trouve que c'est mal traduit. J'ai bien vérifié. Il y a marqué « Soyez fortifiés », en fait. Oui. C'est un passif.
Par c'est un Seigneur, passif. En fait.
Soyez fortifiés par le Seigneur. Ou dans le Seigneur, si on veut. Parce okay. qu'en fait, oui. Le « haine », le « dans », ça peut aussi bien être... ça indique aussi bien l'agent, le moyen. Mais c'est aussi « dans », comme on entre dans une pièce. Alors, ça peut être curieux, si vous voulez, de se dire... On entre dans Christ. Mais quand on regarde l'ensemble du Nouveau Testament, bien sûr, c'est quelque chose qui est très classique. Et comme je vous disais tout à l'heure, mais ça, on le voit un peu plus haut, hein, au chapitre 4, je ne sais pas si vous avez la Bible sous les yeux ou seulement la petite feuille, mais bon, c'est quelque chose qu'on connaît surtout avec la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, vous savez, avec l'image du corps. Mais dans la lettre aux Éphésiens, il dit, voilà, de lui, du Christ, hein, le corps tout entier, bien coordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc il y a l'idée de la construction du corps du Christ. Donc finalement, soyez fortifiés, laissez-vous fortifier en entrant dans le corps du Christ finalement. Alors ce n'est pas qu'une image, bien sûr c'est une image parce que bon, le corps du Christ... c'est quand même, à ce moment-là, c'est quand même un peu une notion abstraite, si je puis dire. Mais ce n'est pas que abstrait. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une complémentarité des différentes personnes qui prennent leur place, et puis aussi d'une, à travers la compassion, à travers le soin mutuel, eh bien, on se fortifie. Alors, ce n'est pas simplement, on pourrait dire, c'est la solidarité humaine qu'on pourrait retrouver chez les stoïciens ou chez eux, je ne sais pas qui. Parce qu'on a tous remarqué que quand on se met à plusieurs, on est quand même souvent un peu plus costaud. Mais là, c'est plus que ça. Donc, ce n'est pas simplement le conseil de fortifiez-vous en étant solidaire. C'est l'idée qu'on reçoit une force, on est dans une dynamique d'évolution. Hein. Se fortifier, c'est pas oui, non. C'est la croissance, c'est une force qui grandit, c'est un enfant qui pousse, qui devient plus savant, plus costaud, plus élevé, plus capable. Et donc, donc on rentre dans ce corps du Christ, on en fait partie et on tire une puissance de la solidarité, de la complémentarité, de la compassion qui peut unir les membres, mais pas seulement. On le tire aussi, comme c'est indiqué après, dans la force de sa puissance. Voyez, c'est pas simplement... La solidarité, les jointures, la compassion, c'est important aussi, hein, c'est clair. Hein. Mais il y a plus que ça. Ça, on le retrouve dans le psaume 133. Hein, vous savez, « Ah, qu'il est doux pour des frères », ce qu'on avait chanté pour la célébration œcuménique, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que l'union fraternelle, c'est le lieu où l'on peut aussi recevoir quelque chose qui vient de Dieu et qui grandit, pas seulement l'ensemble, qui grandit chacun. Voilà. Non ?
Tout à fait. Je crois que là, en effet, il est bon de prendre vraiment l'étymologie de chaque mot. Il y a vraiment l'idée, et ça rejoint un petit peu le fond de la lettre sur l'Église corps du Christ. Mmh. C'est-à-dire que il y a vraiment, on est au fond, il y a évidemment une cohérence très forte entre, parce que finalement, Paul, tu disais, il passe à une autre idée, puis il dit bon, maintenant je reviens. Mais il y a quand même une cohérence de l'ensemble qui est toujours extraordinaire. Et que tout ça, ça tient par le Christ. Au fond, quelle que soit l'approche, que l'on aille dans le couple, que l'on aille dans la famille, que l'on aille dans la société, dans les rapports humains, que l'on aille dans la vie de la communauté, c'est toujours, si on se met dans l'édifice, dans la construction du Christ, de Christ. Christ est vraiment le lâche. Là, pour le coup, Paul, c'est vrai. J'étais très sensible à ce que tu disais. Mm-hmm. Jésus est beaucoup plus moderne, d'une certaine façon, mm-hmm. etc., beaucoup plus universel. Mais Paul, lui, il est vraiment chrétien. C'est-à-dire que il a compris, il l'a vu. D'ailleurs, c'est pas Jésus, c'est Christ vraiment ouais. qu'il a saisi.
Ah, ça, c'est important.
Oui, et du coup, oui. Ouais. Et du coup, eh bien, il en fait la plénitude. Il en fait l'achèvement, le parachèvement. Et vous savez, dans les deux lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, il y a ces fameux hymnes. Vous savez, et Christ, premier né de toutes les créatures. Premier ressuscité, il est le plérôme, la plénitude. Eh bien, finalement, quel que soit l'argument, quel que soit le moment, on en revient toujours là. Et je crois que c'est ça la foi, la foi vraiment rocher là. Hein, c'est que cette puissance, ce dynamisme au sens grec du terme, il la tient de Dieu lui-même, en Christ, par Christ, avec Christ, en curio, dans le Seigneur. Et je crois qu'on peut lui faire confiance dans ce domaine-là. Il a réellement tout misé. Alors là, vraiment, il a tout misé là-dessus. Et avec une certaine réussite. Mmh. Donc on peut lui faire cette confiance-là. Que alors lui, il a lâché prise. Il a tout placé. Il a tout misé dans le même Christ. Mmh. Eh bien, alors après, on peut juger que sa vie est épouvantable, qu'il a beaucoup souffert, etc., etc. Mais en tout cas, le sens total de sa vie, il est là et il essaye de nous le partager.
Oui, et c'est vrai que bon, là, il y a quand même un vrai succès, je pense, une vraie. C'est-à-dire que c'est pas simplement un théoricien fumeux. C'est-à-dire, comme tu le disais, c'est quelque chose qu'il a vécu. Et quand il parle de victoire, quand il parle de paix, oui, c'est quelque chose qu'il a vécu. C'est-à-dire, c'est pas simplement quand il parle d'une bénédiction, d'une grâce reçue. C'est aussi quelque chose qu'il a vécu. Donc oui, il y a les chaînes, il y a les tribulations, il a été lapidé 3 fois, il le rappelle dans l'épître aux Corinthiens. Il est descendu sur un panier pour fuir une ville par la muraille, enfin je ne sais pas quoi. Donc vous voyez, les tribulations, il a fait naufrage, je ne sais combien de fois, mais bon, cela dit, il y a quand même un vrai bénéfice, une joie de voir ses églises, ses communautés, ses relations, ces choses qui avancent, et puis aussi c'était un mystique aussi, et donc au point de vue spirituel, c'est grand moment, oui. Alors quand on parle de Christ, tu disais c'est Christ et c'est pas Jésus, bon, c'est quand même utile de le rappeler, si vous voulez, c'est assez délicat, je ne vais pas non plus choquer les gens, mais la deuxième personne de la Trinité, c'est pas Jésus, si vous voulez, qui marche avec c'est pas Dieu qui marche avec ses sandales sur les routes poudreuses de la Palestine. On dit Jésus est le Christ. C'est-à-dire que Jésus n'est pas sans rapport avec le salut de Dieu donné à l'univers tout entier. Ça se manifeste, ça s'incarne dans cette personne. Mais quand on parle du Christ, il s'agit plus d'une... Comment dire? C'est presque une notion théologique, je dirais, une catégorie théologique qui dépasse largement l'homme Jésus, non? C'est-à-dire que quand on parle de Christ, on pourrait dire l'humain véritable. Et l'humain avec un grand H. Or, Jésus, il incarnait, si vous voulez, l'idéal du type humain, en relation pleinement avec Dieu, donc avec une vraie fidélité, un vrai amour du prochain. Donc, il incarnait ce type, mais en même temps, Jésus, comme tout le monde, il fallait qu'il se coupe les ongles, il n'était pas, je veux dire, c'était pas une idée théologique, si vous voulez. C'était justement cette incarnation qui est une chose fantastique et éblouissante. Quand on parle du corps du Christ, c'est pas du corps de Jésus, si vous voulez, dont on parle là. Quand on parle du Christ, c'est ce qui s'incarne en Jésus et on nous propose, bon, d'une manière parfaite, mais on nous propose que ça s'incarne aussi dans notre vie et que ça s'incarne dans notre humanité. Alors, Église, corps du Christ, moi je dirais plutôt, ça dépend ce qu'on entend par Église. Là aussi, je dirais, c'est plutôt l'Église au sens où Dieu l'entend, c'est-à-dire c'est l'ensemble des personnes qui l'appellent, c'est-à-dire Ecclésia, c'est celui qui est appelé par Dieu. Donc c'est l'ensemble des personnes que Dieu appelle, donc tout homme, fût-il le plus athée des athées, fait partie de l'Église au sens où Dieu l'entend et donc est appelé à faire partie du corps du Christ. Et c'est ça, finalement, peut-être cet appel qui est donné là aussi, c'est pour que chacun entende cet appel et puisse entrer dans le corps du Christ, parce que c'est un vrai respect pour chaque personne humaine, sachant que elle a pleinement sa place, elle a sa vocation personnelle, elle a son prix aux yeux de Dieu, elle fait partie de l'Église. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a l'Église avec un petit E, qui est nos communautés qui, ensemble, essayons de nous mettre volontairement, consciemment, à l'écoute de cet appel de Dieu. Mais ça, c'est des églises avec un petit E. Donc moi, je crois que le corps du Christ, là, c'est un corps un peu effrité, finalement, avec des personnes qui ne répondent, qui ne sont pas, ou qui ne sont que trop partiellement. Mais nous le sommes tous, hein, trop partiellement incorporés à ce corps du Christ. Voilà. Alors, le premier, c'était un passif, donc laissez-vous fortifier, finalement. Voilà. Ça, je crois que c'est important. Ça vient par grâce et il y a une ouverture à cette grâce. Après, non, c'est plus délibéré conscient. Le verset 11, c'est « revêtez-vous ». Là, c'est un impératif. Revêtez. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais en fait, quand on le voit là, se revêtir, c'est entrer dedans, finalement. Donc, quand on le met en parallèle avec le verset 10, ça veut dire que finalement, les armes de Dieu, c'est le Christ lui-même, finalement. C'est le Christ lui-même, en Jésus de Nazareth avec les sandales dont je parlais tout à l'heure, mais aussi dans le Christ.
L'Écriture.
En entrant finalement dans cette communauté, en entrant dans le corps du Christ. Voilà. Et donc ça peut être une démarche volontaire, consciente, de se revêtir, d'entrer dans cela.
Oui, alors j'insiste vraiment sur ce verset 11, c'est d'après moi le summum, c'est la clé. Revêtez la panoplie de Dieu pour pouvoir tenir bon contre les manœuvres du diable. Et là, je crois qu'il faut le lire vraiment au sens le plus fort du terme. Les mots sont très très précieux, il dit bien cela. Il ne dit pas il faut être fort là. Non. Il s'agit d'entrer dans un combat. Et c'est le mot qui est employé dès le verset 12. Et c'est un combat qui n'est pas contre le sang et la chair, mais contre. Et alors là, nous avons des termes qui sont tout à fait typiques de ces lettres de captivité que l'on retrouve à la fois dans l'hymne aux Colossiens et aux Éphésiens, ce sont tous ces principautés, autorités, souverainetés du monde des ténèbres. Alors là, on rentre vraiment dans le mystère du mal, des forces. Alors, ça a donné lieu, et je le disais, à des développements dans tous les sens. Et alors là, on rentre en effet dans une mystique. On rentre dans des développements qui ont pu donner, alors, de temps en temps... C'est le malin, c'est les forces du mal, c'est... Et un certain nombre de grands mystiques ont lutté dans ce combat un petit peu comme Jacob avec l'ange, qui est un combat qui peut laisser des traces, hein, qui rend... Jacob s'est mis à boiter. Il y a vraiment... quelque chose, alors c'est effectivement le verset 12 qui le développe. Des dominations, des autorités, des princes du monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors là, on est vraiment d'abord dans quelque chose de très mystérieux et ensuite dans quelque chose d'étonnant. L'étonnant, tiens, il y aurait donc des forces mauvaises là-haut. En tout cas, il s'agit bien, et Paul insiste là-dessus, ce n'est pas uniquement... le combat d'homme à homme. On n'a pas affaire tout bêtement sur le champ de bataille à notre ennemi, que nous sommes tous potentiellement les uns pour les autres. Hein. Ça, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose, j'allais dire, d'une autre nature. Ce n'est pas une personne, dans la Bible, hein, sans arrêt, il y a Israël contre les Philistins, Israël contre les Égyptiens. Là, on entre dans un combat d'une autre nature qui est beaucoup plus personnel, et qui est beaucoup plus indéterminé. On n'identifie pas, il n'y a pas de localisation géographique ou de localisation chronologique. De quel ennemi, là, on va l'appeler l'ennemi. Mais qu'est-ce que l'ennemi? Qu'est-ce que c'est? De quelle nature? De quoi parle-t-on? Il y a Dieu, et puis il y a quelque chose, alors, dont le mot diabolos, diable, sert un peu de générique. Vous savez, il faut bien des noms pour... Donc le nom générique de cette chose, c'est quelque chose apparemment qui a un lien avec la division. C'est pas quelque chose qui unifie. Il semble que tout ce qui est de l'ordre de Dieu unifie, et de l'ordre de la vie, de l'ordre apparemment de la joie, hein, il y a quelque chose dans ce domaine-là, de l'amour. Il semble qu'il y a quelque chose d'autre, alors qui est d'un tout ordre, hein, je ne dis pas qu'il s'agit de l'anti-Dieu, mais en tout cas, il y a quelque chose qui empêche, qui divise, qui provoque. Alors, de quoi s'agit-il ?
Oui, donc moi je crois que tu as raison d'insister là-dessus, parce que il y a marqué le diable, mais c'est vrai que quand on décalque le mot, au lieu de le traduire, parce qu'en grec, diabalo, ça veut dire éparpillé. Je crois que c'était dans la traduction, Bayard, ils ont mis le diviseur. On pourrait mettre l'éparpilleur, je sais pas, donc c'est vraiment ça, je crois que c'est intéressant, parce que du coup, quand on décalque le mot grec en marquant juste le diable, on en fait du coup comme on le personnifie. Or, je crois que c'est un peu dommage parce que du coup, voilà, on dit bah, le mal, voilà, c'est une sorte de dieu méchant quelque part, ou c'est un sous-dieu méchant, ou un ange déchu, je sais pas quoi. Enfin, tout ça, c'est de la mythologie en fait. Et du coup, on est bien tranquille parce que du coup, le diable, il est en dehors de nous finalement. Le mal passe pas par nous. Bon, des fois, on peut se laisser mal influencer, mais quelque part, c'est pas nous, quoi. Et donc, c'est bien agréable, bien confortable. Alors que quand on met le diviseur, on sait bien que parfois, on est agent de division, et on sait bien que... Donc, à ce moment-là, on tombe dans de l'éthique, finalement. Les ruses du diviseur, nous savons que nous sommes parfois, mais Jésus le dit lui-même. Vous croyez fils d'Abraham, mais vous rigolez. Si vous étiez fils d'Abraham, vous auriez la foi d'Abraham. Mais vous êtes plutôt fils du diable. Voilà. Et donc c'est bien ça la question. Et quand il dit ça, il nous dit, ben voilà, le diable, c'est pas quelque chose qui est quelque part extérieur, transcendant, je sais pas quoi. La question, c'est de le discerner en nous, dans nos relations interpersonnelles, parfois dans l'autre qui me casse les pieds en face, parfois dans mon église, parfois dans ma copropriété, que sais-je. Donc, c'est pour ça que j'aime bien finalement ce langage un peu fantastique, ce langage un peu figuré, parce que je crois qu'il ouvre, bon, si on veut le faire, cette ouverture, mais il ouvre à une appropriation, à y reconnaître sa propre vie, mais pas seulement dans les combats spirituels, dans la vie en ce monde, dans des catégories qui sont tout à fait, bon, j'allais dire malheureusement, mais en même temps, la vie est comme ça. La vie est comme ça, et c'est bien ainsi, c'est-à-dire, il y a ces combats qui sont dans notre vie, et cette construction du monde, cette genèse du monde, cette genèse de l'homme nouveau, notre propre genèse, elle est faite de ces combats contre des puissances d'éparpillement, d'effritement, d'éboulement. C'est une réalité, voilà, c'est une réalité. Alors, on nous dit que pour ça, il faut nous revêtir de toute la panoplie de Dieu. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit ça, c'est pas saisir une panoplie que Dieu nous donne en disant voilà, vos outils. Voilà. Comme le Seigneur donne un râteau et une bêche à son jardinier, mais lui, le Seigneur, a jamais touché un râteau ou une bêche. C'est pas comme ça du tout. Là, les armes de Dieu, c'est les armes que Dieu utilise lui-même. Et donc, quand on va voir après la suite, il s'agit pas seulement d'une éthique, si vous voulez. Il s'agit d'une théologie, c'est-à-dire qu'on parle de Dieu, Dieu lui-même, il agit ainsi, il travaille ainsi, par la justice, par la fidélité, par l'espérance, par l'amour. Il ne travaille pas par sa parole, il ne travaille pas en trucidant des gens. Et ça, quelque part, quand Paul dit ça, il donne déjà une clé de lecture qui est quand même fondamentale pour tout un tas de passages de l'Ancien Testament, mais même si on interrogeait les gens dans la rue, il y a un paquet de gens pour vous dire si... Dieu, il peut punir en envoyant des maladies ou des souffrances. Si, Dieu, Il peut nous éprouver, nous tester, voir si on va se débrouiller. Bon, alors il nous envoie une catastrophe, et puis il dit, lui, comment il va se débrouiller avec ça? Il y a des gens qui le pensent franchement. Des gens qu'on va voir à l'hôpital, qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être malade? Comme si quelque part, c'est Dieu qui s'amusait de lui dire, bah, lui, penche, je vais lui envoyer un cancer, on va voir, ça lui fera les pieds. Absolument pas, si vous voulez, c'est impensable. Quand on lit ça, il y a une vraie théologie, c'est-à-dire que voilà, Dieu n'agit pas ainsi, il agit par la justice, par la bonté, par l'amour, par la parole, par le salut. C'est comme ça qu'il agit, par la bénédiction. Voilà. Mais c'est ce que dit Jésus-Christ aussi, mais là c'est pas mal dit, je trouve, quand même. Et puis en même temps, il y a une éthique, on nous dit, voilà, comment vous allez vous saisir des armes de Dieu lui-même. Alors cela dit, c'est la panoplie, c'est une panoplie complète, quoi. C'est-à-dire que si on oublie un des morceaux, ça manque. Donc, il ne faut pas manquer un certain nombre d'outils. Voilà.
Alors, comme c'est une panoplie, moi, j'ai des souvenirs quand on était enfant, on avait des panoplies. Et en effet, il y avait un certain nombre de choses. Il y avait Zorro, alors il y avait la cape, il y avait le chapeau, le loup, il y avait à la pointe de l'épée. Et donc, et ben là, c'est pareil. Dans la panoplie, il y a un certain nombre de choses. J'ai noté, moi, qu'il y en avait six. Il y a six armes.
6 ou 7, en fait.
Oui, 6 ou 7, voilà, oui, c'est ça.
Parce que le 6, c'est un peu dangereux.
Oui, alors
moi, j'ai dit, bon, j'en rajoute un petit.
Oui, voilà. Alors, j'en ai mis 3, en tout cas, qui s'adressent à notre façon de vivre, qui sont vérité, justice et paix. Et puis, après, je me suis dit que les 3 suivantes, c'était plutôt notre façon de penser. Donc, la façon de penser, la foi, les pensées et la parole. Et donc, effectivement, après, on en est à la prière. Je dirais que c'est un peu l'action, c'est la façon de mettre en œuvre toutes ces armes. Mais je trouve qu'on n'a pas complètement expédié la question de l'ennemi. Parce que malgré tout, au fond, depuis le début de l'année, on se pose la question de la guerre et de la paix. Et il se trouve qu'on a commencé par la Genèse et qu'on a vu quand même, si vous vous en souvenez bien, qu'il y avait quelque chose de noir. Vous vous rappelez la bête tapie dans l'ombre, dans le cœur de Caïn. Hein, il y a quelque chose... Voilà. Et cette chose-là, ce sombre, cette bête, on ne sait pas bien ce que c'est. Vous savez, depuis le début, on essaye de... Alors, il y a le serpent... Il y a la femme, tiens, allez, hop, il y a des gens qui ont trouvé leur bon... Enfin, vous voyez, chacun la met quelque part, mais ça marche jamais. Parce qu'un serpent, ça résout pas tous nos problèmes. Si c'était dû qu'à un serpent, on éliminerait les serpents, mais je crois pas que le monde tournerait tellement mieux, hein. La femme, c'est pareil. Donc, au fond, toutes les explications qu'on a cherché à donner... ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, d'abord, il y a quelque chose d'intérieur, c'est-à-dire qu'on a beau le trouver toujours, bien sûr, hein, l'ennemi, c'est celui d'en face, c'est l'étranger, celui qui n'est pas comme moi, c'est celui qui a une autre couleur, qui n'a pas le même sexe, enfin, tout ce qu'on veut. Mais même en faisant ça, on n'arrive pas à épuiser cette espèce de diabolos là, cet esprit de division qui fait qu'on a du mal quand même, on a du mal à le discerner, parce qu'il y a ça, il y a un discernement au fond. Dieu, on sait à peu près, Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est justice, qui sont des choses qu'on arrive à approcher. On arrive à approcher l'amour, la vérité, la justice. Jésus est une personne qui nous permet d'approcher ces choses-là, est une incarnation de ces choses-là. En revanche, cette espèce de malignité, cette espèce de mauvaiseté, je ne sais même pas comment dire, c'est un sujet inépuisable. C'est effectivement quelque chose de très malin. D'ailleurs, même Paul nous parle d'une stratégie. Il y a quelque chose quand même, c'est une forme, je ne trouve pas de mots, mais en tout cas, c'est une chose bien douée. C'est une chose qui marche, qui est résistante, qui résiste à nos, à nos vertus, à nos forces, à nos... C'est quelque chose qui nous échappe un peu, parce qu'au fond, on n'a jamais mis la main dessus. Et souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué que quand on croit avoir mis la main dessus, c'est une ruse de cette chose-là, parce que non, justement, on n'arrive pas à le circonscrire à quelque chose de précis. C'est quelque chose d'assez fuyant, d'assez indéfinissable. Mais en revanche, ça tient bien la route. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a l'air de bien durer, qui nous embête quand même pas mal la vie, et avec lequel on n'a pas fini de lutter. Donc voilà, je voulais un peu dire, pour compléter un peu, heureusement, le côté Dieu, là on a la panoplie, là on a identifié, là Paul nous donne bien les éléments, et là on ne peut pas se tromper de ce côté-là.
Alors oui, il y avait le revêter finalement, la panoplie, c'est-à-dire entrer dedans, et moi je voyais bien l'entrée dans ce corps finalement. Et quelque part, ça a quelque chose quand même un peu de rassurant, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans un monde de violence et de haine, il y a aussi quand même cette solidarité, on peut compter aussi un petit peu les uns sur les autres. Et c'est quand même vrai, c'est-à-dire que bon, on est plus marqué peut-être par celui qui nous a trahis, celui qui nous a cassé les pieds, machin. Mais cela dit, quand même, on est tenu par tout un tissu de solidarité, ne serait-ce que des générations passées qui nous transmettent vraiment de belles choses, ne serait-ce que par peut-être des amis, des gens qui sont autour de nous, de la famille, et qui voilà. Je crois qu'il y a cette idée d'entrer dans ce corps. Mmh. C'est pas un petit cocon, mais il y a quand même quelque chose là qui est, je dirais, qui est fort, oui. Ensuite, prenez les armes, et il y a l'idée, moi je vois quelque chose de plus individuel, c'est-à-dire qu'il faut là le tenir. Alors c'est paradoxal, parce que si vous voulez, la panoplie, elle nous enveloppe, et on est dedans, on entre dedans, et l'arme, à ce moment-là, on la tient. Et c'est, donc ça, on le retrouve fréquemment dans les lettres de Jean, par exemple, dans l'Évangile selon Jean. En même temps, le Christ, c'est quelque chose que l'on saisit, que l'on aime, donc qui est comme extérieur et qu'on attrape. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui est en nous. Voilà, on l'attrape, on le met en nous, et quelquefois, on entre dans le Christ. Vous voyez, il y a un peu ces deux images où c'est nous qui tenons le Christ, et un autre où c'est le Christ qui nous tient, qui nous porte. Voilà. Alors ici, c'est l'autre image, il faut prendre le Christ à la main, c'est plus délibéré, plus volontaire, plus individuel, ce combat individuel aussi, que l'on peut mener. Alors on peut, oui, saisir. On remarque quand même que, bon, il y en a, la plupart de ces armes, c'est des armes défensives. Voilà. On nous dit, il y a un casque, il y a un bouclier, il y a une armure, il y a tout un tas de choses qui nous protègent quand même. Il y en a une, la dernière, c'est une épée, voilà, qui est plus offensive, c'est l'épée de la parole, l'épée de l'esprit. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on le voit, c'est pas simplement, je crois qu'il y a quelque chose qui est important dans notre existence, alors nos combats spirituels, ces choses effectivement qui nous tirent vers le bas, qui nous font souffrir. Eh bien, il y a, je crois, bon, on peut appeler ça, je sais pas quoi, résilience, par certains auteurs récents, mais on pourrait dire une sorte de capacité à encaisser, quoi. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui est une belle promesse et qui est quand même vrai, c'est-à-dire que par la foi, par la solidarité peut-être aussi de ceux qui reçoivent une capacité aimée par le Christ, voilà, mais aussi simplement par ces armes de Dieu, quand on se saisit par ces 6-7 éléments, les armes de Dieu, on a quand même une carapace, quoi, une capacité à encaisser. Et ça, je crois que c'est quand même beau. Et on le voit avec le Christ, finalement, hein, il a quand même une sacrée capacité à encaisser, et puis parfois à se faufiler. Là, je verrai plus avec les pieds qui courent, là, de l'évangile de la paix. On voit le Christ, ils ont décidé de le lapider, et puis lui, on ne sait pas comment, se faufilant au milieu d'eux, il arrive à partir ailleurs. Chapeau, si vous voulez. Mais je crois que c'est quelque chose aussi qui nous est promis, c'est-à-dire qu'on a une capacité à s'en sortir face aux difficultés par la foi qui est quand même pas négligeable. Alors, il y a aussi, bon, par la parole, on voit Jésus souvent hein, qui agit en disant « Pourquoi me frappes-tu ?» Et donc à ce moment-là, ou en posant des questions, en interrogeant, en exhortant, en interpellant. Et donc là aussi, il y a un combat contre le mal, mais par la parole. Par exemple, la femme adultère, bon, il lui dit quand même « Va et ne pêche plus ». Donc si vous voulez, il ne va pas la lapider, il ne va pas lui taper dessus, il ne va pas machin. Donc ça, on retrouve bien l'éthique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est bien développée ici. Mais quand même, il y a ce combat contre le mal parce qu'il n'appelle pas une pécheresse une femme juste. Il y a un péché et il en prend acte. Mais il l'aide à se mettre en route, justement, à cheminer. Il l'interpelle et voilà, il lui permet de... Il la dynamise pour avancer.
Oui, effectivement, je réfléchissais à l'histoire un peu tumultueuse, l'histoire des religions. Au sens vraiment guerrier du terme, les guerres de religion. Tiens, voilà. Voilà un bon exemple. C'est précisément quand on n'a pas pris au sens juste du terme de telles propositions qu'on a commis les plus graves erreurs au nom de Dieu. C'est lorsque l'on a voulu faire la guerre au nom de Dieu que là, on est exactement à l'inverse de ce qu'il nous est proposé. C'est tout ce côté défensif. C'est non pas aller guerroyer, mais c'est se protéger par la parole. C'est l'écriture qui nous sauve, c'est le bouclier de la foi, et en aucun cas il ne s'agit d'armes d'attaque. Et il ne s'agit pas d'aller heurter je ne sais quelle hérétique ou au nom de je ne sais quelle cause, mais c'est bien l'inverse, c'est-à-dire que c'est face à toutes les ruses de l'ennemi, face, en effet, à un monde dur où on est en proie à toutes ces stratégies, que là, on trouve dans la vérité, la justice, la parole, des armes défensives. C'est-à-dire que dans ce combat, au fond, il ne s'agit pas de vouloir aller combattre un ennemi qui est justement insaisissable, et que l'on va faussement mal interpréter et aller trouver dans celui qui ne pense pas comme moi, qui prie un autre Dieu, ou qui ne prie pas de Dieu d'ailleurs, ou qui agit pas comme ma morale ou ma religion l'entendrait. Eh bien non, ce n'est pas en allant oxyre la personne qui représente cela que je réalise ma mission. C'est simplement en parant ces attaques, s'il y en a, par les armes que sont la justice, la vérité et la parole. Donc je crois que là on voit à quel point non seulement cette démonstration de Paul n'est pas du tout inefficace ou inefficiente, mais au contraire qu'elle nous dit beaucoup et qu'on eût mieux fait de bien le lire et l'entendre plutôt que d'aller dans je ne sais quelle aventure. Hein?
Alors là, il donne, je crois, bon, il y a, je crois que c'est pas seulement de la haute théologie, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose de pratico-pratique. Quand on médite quand même sur donc la vérité de Dieu, la vérité, c'est-à-dire en fait... Bon, je l'ai souvent dit peut-être, mais c'est le même mot en hébreu pour dire vérité et fidélité. Donc, ce n'est pas une vérité, j'allais dire, objective. C'est une vérité de relation, c'est une vérité d'être. Vous voyez, c'est une vie bien placée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une vie qui est dans une... Voilà, qui est dans le vrai, quoi. Voilà, quand on est dans le vrai, par sa façon d'être. La justice de Dieu, c'est une justice... Qui aime, c'est-à-dire qui reconnaît ce qui est juste et bon dans une personne, et puis qui se dit, ben, ce qui ne va pas dans cette personne, eh bien, c'est triste, c'est dommage, on va voir comment on peut l'aider éventuellement à avancer, à progresser, mais c'est une justice qui est bienveillante, qui voit ce qui est bien dans la personne, et puis qui espère et qui va agir pour que la personne soit, si possible, si elle le veut bien aussi, un peu plus juste demain. La bonne nouvelle de la paix, c'est... Donc c'est quand même cette... Là, on pourrait dire que c'est aussi de la parole, mais c'est une parole C'est pas la parole au sens de la fin, qui est, c'est une parole créatrice à la fin. Ça, c'est une parole, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui se dit, qui s'énonce avec la bouche, qui dit aux autres, finalement, hein, voilà l'évangile, ce qu'on appelle l'évangile, c'est-à-dire ce que nous apprend le Christ, voilà, hein, ce que nous a dit le Christ sur l'amour de Dieu, sur la des façons d'être, sur la possibilité d'être dans la vraie vie, la vie éternelle. Et puis la paix, c'est l'idée de... C'est pas simplement être en paix, c'est-à-dire de ne pas avoir de problème, c'est plutôt une paix... L'idée d'une construction qui arrive à son achèvement. On avait un peu cette idée aussi à la fin du verset 13. Après avoir tout accompli, avoir tout surmonté, avoir tout établi finalement. Il y a l'idée d'une construction qui avance. Et donc l'évangile de la paix, c'est l'évangile que, en définitive finalement, Dieu aura le dernier mot. C'est-à-dire qu'il y aura... la victoire du bien, de la vie, de l'amour, de la paix, et voilà, ça c'est... Et que c'est pas simplement une abstraction, c'est quelque chose à vivre maintenant, déjà, dans les prémices. Donc il y a la foi, il y a le salut, c'est quand on se sait déjà sauvé, accepté, choisi, aimé par Dieu, gardé par Dieu pour l'éternité, ça relativise plein de choses. Quand quelqu'un... Quand on parlait tout à l'heure, en mangeant à table, en fait, de personnes âgées qui sont désespérées parce qu'elles vont à la retraite. Oui, mais quand on se sait, je veux dire, que notre identité, la valeur de notre être n'est pas dans le travail que l'on fait, même si bien sûr c'est important pour nous, mais quelque part, si ça, on en a été pétri, on est quand même plus armé contre le chômage, contre la retraite, contre les aléas de l'existence, si vous voulez, contre le vieillissement. Je crois que oui, c'est quand même un vrai casque, ça. C'est pas simplement de la haute théologie abstraite, c'est quelque chose de fondamental. Et ensuite, l'esprit, la parole de Dieu, là, c'est donc une dynamique de création, d'évolution. Alors, je crois qu'avec ces 6 ou 7 points, là, il y a le résumé d'un petit catéchisme, un résumé de l'évangile qui se dit, c'est-à-dire de ce qu'est Dieu, de sa façon d'être, de son projet pour nous, et puis aussi des vérités théologiques fondamentales. Alors, en même temps, il y a un petit peu une polémique de Paul, parce que dans le judaïsme en particulier, mais peut-être dans le christianisme aussi, il y a eu des personnifications d'un peu de ces grandes catégories. Voilà, on voit par exemple, dans certains, disent, voilà, Dieu discute avec sa sagesse. Voilà. Que parfois, il y a des théories absolument incroyables, où Dieu, finalement, par son amour... va donner son fils pour qu'il soit trucidé, pour satisfaire sa justice, vous voyez. Alors c'est vrai que quand on y réfléchit, il faut être sacrément tordu, mais vous voyez, il y a Dieu, puis quelque part il y a sa justice qui est un peu sa main gauche, et puis son amour qui est sa main droite, enfin vous voyez. Et donc là Paul dit non, tout ça c'est des armes de Dieu, c'est-à-dire tout ça c'est la panoplie de Dieu, c'est des façons d'être de Dieu, c'est des outils. Et donc, c'est des créatures de Dieu, dans un sens. Dieu est au-dessus de ça. C'est des moyens qu'il a d'agir en ce monde, des outils, voilà. Et donc, il nous propose d'utiliser ces outils. Et ben, je crois qu'il y a quelque chose là qui mérite d'être médité presque, j'allais dire, quotidiennement, quand même, non ? Je ne sais pas.
Oui, et précisément, Paul fait ce lien avec la méditation quotidienne par la prière. Et ça, un homme d'action... Un homme d'action comme il était, qui appelait au mouvement. Il fallait construire, agir, travailler, prêcher, voyager, aller à l'autre bout de la terre, etc. Et la prière. Alors, en plus, c'est pas prier une fois le dimanche, une heure au culte ou à l'Eucharistie. Non. Par toute prière et demande, priant en tout temps par l'Esprit, et pour cela étant vigilant en toute assiduité et demande pour tous les saints. C'est exigeant. Mais qu'est-ce que prier ? Comment peut-on... D'abord, dans le monde dans lequel on vit, on a des tas de choses à faire. Est-ce qu'on peut prier tout le temps ? On n'est pas payé pour ça, j'ai envie de dire.
Sauf toi et moi.
Mais pas pour tout le temps, on a des tas d'autres choses à faire.
Oui, c'est vrai.
Et donc voilà, donc il faut comprendre là aussi c'est comme être en Christ. Est-ce qu'on l'est simplement ? Ça, c'est une question qui est très contemporaine. C'est à quel moment on est chrétien ? Est-ce qu'on l'est quand on va à la messe ? Oui, mais très bien. Mais quand on prend le métro, on ne l'est plus. Et puis quand on est au travail ? Ah ! Et eh bien, je vais vous dire, les jeunes, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui se posent des questions sur la religion, se demandent en effet et sont parfois choqués par la dichotomie ou par la séparation. Hein. Les chrétiens du dimanche, et puis, mais le lundi, on licencie, on spécule, on je ne sais quoi. Et donc, on fait comment ? Donc, y a-t-il, voilà. Et Paul, qui n'est pas du genre à faire les choses à moitié, eh bien, il nous explique que, eh bien, la prière, elle est permanente, et que finalement, là est le secret de la liberté et de la vérité de nos vies. Alors, il n'y a pas beaucoup de, compromissions. Il n'y a pas beaucoup, voilà. Le programme est clair, maintenant il reste à le mettre en œuvre. Alors c'est là qu'il faut peut-être un petit peu se poser quelques questions.
En même temps, je trouve que c'est quand même assez, finalement, c'est quand même assez rassurant parce qu'au début, revêtez la panoplie de Dieu. On se dit, bon, mais c'est sympa, je veux dire, c'est un beau cadeau. C'est, en même temps, c'est incroyable que Dieu soit comme le prolongement de notre bras, si vous voulez. C'est un peu comme, moi, en fait, mon rêve, ça aurait été d'être. De manipuler les pelles mécaniques, les poquelins, là. Je trouve ça vraiment un jouet extraordinaire. Moi, je sais pas, c'était... Effectivement, il manipule ça avec un petit doigt et il y a un gigantesque truc qui peut soulever 12 tonnes d'un coup. C'est quand même merveilleux. Donc finalement, c'est ça que Dieu nous donne. C'est-à-dire, Dieu se fait notre poquelin, vous voyez. C'est quand même une humilité incroyable. C'est-à-dire que c'est nous qui allons être aux commandes de ces armes d'une puissance extraordinaire de transformation du monde. Donc, alors cela dit, on se dit c'est génial, mais je vois mal concrètement comment revêtir ces armes, quoi. Et bon, c'est vrai qu'au point de vue de l'image, ça paraît surréaliste, mais concrètement, c'est pas si évident. Par exemple, il y a marqué, bon, ensuite, tenez ferme la vérité. Bon, j'essaye, on peut faire de la théologie, réfléchir, chercher à creuser sa fidélité. Bon, d'accord, un petit peu. Recevez le casque du salut. Bon, il faut le recevoir. Bon, ça, c'est déjà... C'est sympa, c'est un cadeau, on le reçoit, mais concrètement, comment ? Alors, il nous le dit, voilà, concrètement, ben, en fait, c'est plus simple que ce qui ne semble. C'est par la prière. Et même la prière... Il ne s'agit pas de dire « the bonne prière » avec les bonnes paroles qui machin, la théologie nickel et tout. Non, c'est même pas ça. Il s'agit de laisser prier l'esprit en soi, finalement. C'est donc une... Il faut laisser Dieu prier en nous-mêmes. Et donc ça, je trouve que c'est quand même assez rassurant, finalement. Ensuite, le fait de prier sans cesse, en même temps, bon, on sait bien qu'on ne peut pas nous en vouloir de ne pas prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Voire même 366. C'est quand même évidemment impossible. Donc, on est dans l'ordre de l'idéal. Donc ensuite, on fait au mieux, quoi. Donc, je trouve que c'est assez rassurant. Si on nous disait, voilà, il faut prier 5 fois par jour, il faut prier au moins 4 heures par jour, on dit, mince, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Comment est-ce que je vais devenir ? Je suis un peu nul. Ou alors, ah là là, mais moi, j'ai prié 6 heures aujourd'hui. Je suis drôlement plus fort que mon collègue qui avait plein d'autres choses à faire. Des baptêmes, des machins. Donc... Vous voyez, c'est... Non, voilà, en fait, on fait ce qu'on peut. Il y a une ouverture à la prière. Moi, j'ai bien aimé ce que tu disais. Il y a une sorte de... Dans la prière, une recherche de mise en cohérence entre ça, finalement, et puis ce qu'on a vécu concrètement. Et ça, j'y crois assez. C'est-à-dire que quand on prie le soir, on peut faire un peu méditer sur ce qu'on a vécu, ce qui était de l'ordre, oui, peut-être, d'une vraie fidélité qu'on a reçue. Quelqu'un qui nous a été fidèle, quelqu'un qui a été juste avec nous. Ou bien on a pu avoir quelque chose dont on est un peu content et fier. Ça peut arriver quand même. On est assez content. On se dit, ben ça, c'était quand même pas mal. Et on est un peu content. Mais c'est une façon, si vous voulez aussi, de travailler sur cette mise en cohérence, cette ouverture pour se saisir, pour recevoir quelque chose qui est comme ça. Quand on fait une étude biblique comme ce soir, bon, c'est un petit peu intellectuel, un peu philosophique. Mais en même temps, il y a une façon peut-être de tendre à la main pour se saisir. De ce que c'est que la vraie valeur de l'homme. Et puis je crois que l'esprit, c'est pas simplement... On sait pas trop ce que c'est que l'esprit, si vous voulez. C'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que c'est une image en même temps. L'esprit, c'est comme disait la tradition, c'est le souffle divin. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. Sauf qu'on voit, c'est vrai que dans la Genèse, Dieu crée par son souffle ou par sa parole. Donc on pourrait dire, c'est un acte de création de Dieu. C'est un quelque chose qui vient de Dieu, qui est comme proposé comme une parole, ressenti comme un léger souffle sur la joue, ou comme l'air qui nous environne, donc on s'en saisit, ça nous rend plus vivants, ça nous fait avancer, ça nous marque peut-être une direction, comme le vent, ça nous pousse un petit peu dans le dos. Enfin bref, c'est toute une image, voilà, pour dire un acte de Dieu qui nous est proposé pour être un peu plus vivant, un peu plus, voilà, un peu orienté, un peu plus fort aussi peut-être. Donc c'est tout ça. Donc dans la prière, on s'ouvre à cette dynamique de Dieu. Et puis, il y a quelque chose qui peut se passer. Alors ensuite, il y a la prière pour les saints, ça va. C'est... T'as sûrement quelque chose à nous dire là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même plus votre spécialité. Mais cela dit, j'ai quand même réfléchi pour m'en sortir. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas très forts chez les protestants pour la prière pour les saints.
Oui.
Ah non, ça, la communion des saints. Mais en même temps, bon, je crois que c'est important, parce que si vous voulez... Mais d'abord, je peux te laisser...
Vas-y.
C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que d'abord, les saints, c'est Dieu qui sanctifie. C'est-à-dire, c'est pas une qualité supérieure des êtres humains, en disant, lui, il a le brevet, il est dans les top 10, donc on va lui donner le diplôme de saint. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que parle la Bible. C'est Dieu qui sanctifie. Et en fait, Dieu sanctifie tout le monde, c'est-à-dire qu'il considère chaque personne comme un individu et dit, lui, en fait, je le verrais bien faire vraiment plein de bien autour de lui. Et alors il essaye de nous... Bon, on a notre mot à dire, mais on a une vocation personnelle un peu, je veux dire, c'est négocier avec notre désir profond, avec ce que nous sommes, mais Dieu a quand même des idées et il nous appelle. Et donc, c'est ça, sanctifier. C'est vraiment recevoir de Dieu comme un appel, une vocation, une responsabilité, une mission. Donc, les saints, c'est tout le monde. Donc, quelque part, dans la prière, vous voyez, prier dans toutes sortes de supplications, de demandes, on pourrait dire, c'est quelque chose quand même d'hyper égoïste, en fait. Je pense à ma petite progression à moi, et je vais mettre mon casque du salut, youpi, que rien va... tous les problèmes vont me glisser sur mon casque du salut comme sur les plumes d'un canard, vous voyez, et je vais être hyper heureux. Mais quelque part, dans la prière pour les saints, il y a la constitution de ce corps du Christ, c'est-à-dire qu'on se dit, mais... si en fait lui, il manque au corps, c'est quand même hyper dommage, parce que d'abord il pourrait être plus vivant, plus heureux, donc ce serait quand même bien, puis en plus, mais en fait le corps entier a besoin de ses compétences, de son charisme personnel, de sa vocation, de ce qu'il peut apporter à l'univers tout entier. Et donc on prie les uns pour les autres, pour que le corps puisse se constituer, et donc on prie pas trop pour soi-même, je crois que personnellement c'est pas une très bonne idée, mais on pense au bien d'autrui, on veut élever autrui, et il y a là quelque chose qui nous ouvre au meilleur qui vient de Dieu.
Oui, je ne peux qu'adhérer complètement à ce qui vient d'être dit. Je pense que, d'autant plus, il faut, puisqu'on essaye d'étudier les textes dans leur intégralité, il faut garder le contexte. Or, dans quel contexte nous sommes ? Nous sommes dans un contexte de combat où il y a manifestement un ennemi qui est manifestement bien peu saisissable, mais donc les saints, j'ai envie de dire, c'est ceux qui ne sont pas l'ennemi, c'est donc mes frères, pour garder cette image, dans mon armée, l'armée de Dieu. Alors tout à l'heure on parlait du corps du Christ, et bien les saints, ce sont tous les membres du corps du Christ. Alors dans la mesure où je ne sais pas définir cet ennemi et que je dis qu'il ne s'agit pas de telle ou telle personne.
En tout cas, oui.
Les saints, ce sont mes frères, les hommes, qui, c'est cette partie-là qui n'appartient pas à l'ennemi. Parce que dans la mesure où on est dans un contexte de combat, il y a mon camp, celui des hommes, celui des hommes qui accepte de revêtir les armes de Dieu, et puis il y a un autre camp, qui est celui de l'ennemi. Alors, voilà. Malheureusement, je crois que c'est une guerre interne. C'est une guerre civile, d'une certaine façon. Mais en tout cas, tous les saints pour lesquels je vais prier, c'est au fond mes frères, les hommes, qui vont comme moi, avec moi, et pas plus, pas moins, enfin, je veux dire, dans cette même homogénéité, combattre pour la vérité, la justice, la parole. Voilà, Et donc, je ne vais pas privilégier telle ou telle emblématique ou je ne sais quoi. Je vais en revanche m'associer. Et je crois que le mot communion, la koinonia, s'applique particulièrement en communion, alors avec tous les hommes de bonne volonté. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté, à tous ceux que Dieu souhaite voir s'élancer. Et je crois que là, autant jusqu'à présent, Paul, qui est un homme qui a été ô combien seul, sait ce que c'est que de se battre tout seul. Il l'a voulu aussi, hein. Il s'est mis lui-même à l'écart, il a fait sa période de désert, il a su prendre les chemins. Autant, c'est un homme qui a su fédérer ô combien, et c'est quand même l'homme des communautés. Car avant même, comme tu disais, l'Ecclésia, avant même de faire la grande église, il a fait les petites églises, c'est-à-dire les communautés. Et il n'a cessé d'exhorter ses frères à s'unir, à se soutenir. Et même, et ça c'était formidable, à dire qu'il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont pas y arriver. Alors si j'ai un peu plus de force, je vais leur en donner. Donc autrement dit, aider mon frère à combattre l'ennemi qui est en lui, pas seulement celui qui est en moi. À un moment, je serai un peu plus fort parce que j'aurai revêti les bonnes armes. Eh bien, que je prie. Alors, pour tenir, certes, pour combattre l'ennemi, certes, mais pour aider le petit à pas tomber. Donc je crois que c'est ça, c'est toutes ces choses-là. Et au fond, je crois que bon an, mal an, bon gré, mal gré, bien des prières de toutes nos églises vont dans ce sens. Et je crois que c'est d'ailleurs, tenez, je pense que c'est d'ailleurs quelque chose que dans notre société contemporaine, les gens savent gré aux chrétiens de toutes obédiences. C'est précisément, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand même assez souvent dans les catastrophes, et Dieu sait qu'on n'en manque pas, naturelles, cataclysmiques, les gens font confiance à la solidarité et sont prêts à s'engager. Je crois que la générosité humaine, elle est sous tout, mais je crois en effet le chrétien, en tant que tel, dans la solidarité, il est reconnu comme capable d'une certaine solidarité humaine. Donc, et je pense, ça mériterait d'ailleurs d'étudier, mais je suis sûr qu'il y a bien des gens qui ne pratiquent pas, qui ne frayent pas, qui n'ont pas les catégories sociologiques du croyant et qui vont s'associer à la solidarité chrétienne sous toutes ses formes, qu'elle s'appelle Caritas ou je ne sais quoi. Et je pense que là, parce que il y a, je ne dis pas une spécificité ni une exclusivité, mais en revanche il y a un message, disons, que l'on retrouve à peu près partout, de cette communion. Alors la prière, c'est quelque chose qui passe mal pour quand on est à l'extérieur, mais en revanche c'est une solidarité, c'est une communion qui se reconnaît. Voilà.
Mais je crois que oui, je suis tout à fait. Je crois que c'est sensible, et je crois que ces personnes finalement qui sont assez loin de la foi et qui néanmoins s'associent ou sont reconnaissants en fait de cette prière, ça nous montre qu'on peut prier sans croire en Dieu. Et je crois que quand on parle de la foi, le contraire de la foi, c'est pas le doute, si vous voulez. Le contraire de la foi, c'est ne rien avoir à faire avec Dieu. Et donc on peut, oui, prier, c'est-à-dire attendre Dieu, s'ouvrir à Dieu, méditer sur ce que c'est que la justice, ce que c'est que l'amour. On peut déjà s'ouvrir à Dieu, même si on ne croit pas spécialement en lui. Et du coup, c'est aussi une humilité de savoir, tu dis, si Dieu, si tu existes, eh bien, aide-moi dans ces combats, aide les hommes dans ces combats, grandis les hommes, rends-les plus sages, plus justes, et plus voilà. Ça, je crois qu'on peut le demander. Puis comme là, on nous le propose, on prie d'abord largement pour les saints, ensuite il dit, s'il vous plaît, priez pour moi. Et ça, je trouve que c'est assez beau, parce que la prière, elle doit quand même s'incarner, si vous voulez. C'est bien de prier pour les haïtiens, mais peut-être que ça serait mieux de prier pour... Voilà, bon, on peut y penser, je ne dis pas, hein, et puis peut-être donner aussi si on peut, mais c'est vrai, quelque part, ça engage plus quand on prie pour, je ne sais pas quoi, la tante Paulette qui est toute seule et qui a son cancer. Parce que du coup, il va peut-être falloir qu'on aille la voir, il faut peut-être qu'on se trouve le moyen d'eux. Et donc, je crois que oui, la prière s'incarne, et puis ça termine par une bénédiction que je trouve que Paul, il est assez fort dans les, j'allais dire, dans les formules de bénédiction aussi.
Il est beau.
Il est assez bon sur ce coup. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères. Bon, il met les frères, mais non, les frères et sœurs, on mettrait aujourd'hui. Mais
bien sûr.
C'est, bon, c'était un peu comme ça. De la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a l'amour et la foi. Bon, il manque un peu l'espérance, mais on la trouve un peu dans la suite. Hein. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inoxydable, inaltérable. Il y a l'idée, bon, que l'amour du Christ, en tout cas, je crois effectivement, est vraiment éternel, inoxydable. Bon, cela dit, oui, l'amour et la grâce de Dieu ne sont pas donnés que à ceux qui aiment Dieu, mais ils sont donnés universellement à tous. Et il nous propose de s'en saisir. Alors, on se retrouve la prochaine fois pour s'arrêter bien pile à 10 heures, pour ne pas que retenir ceux qui sont ont du chemin à faire. La prochaine fois, on se retrouve donc le mercredi 7 avril à Saint-Eustache. Donc, c'est dans la salle des colonnes, impasse Saint-Eustache. Le Seigneur est un guerrier, Exode 15, retourne dans l'Ancien Testament, voilà, le Premier Testament.
Bonne soirée.
Bonne soirée, bon retour, merci.